À 7h à Paris, 6h en temps universel, 1h à Washington, vous écoutez RFI. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Pierre Boudias, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Un fidèle de Donald Trump à la tête de la Chambre des représentants.
Mike Johnson, réélu hier malgré l'opposition d'une partie de son camp, il promet des coupes drastiques dans le budget de l'État. La violence des colons israéliens à des niveaux inédits, c'est la conclusion d'un rapport des Nations Unies. En 2024, 1400 incidents impliquant morts, blessés ou dégâts matériels ont été recensés. En Italie, Giorgia Meloni refuse de perdre la flamme. La présidente du Conseil assure qu'elle ne changera pas le logo vert, blanc, rouge de son parti Fratelli d'Italia, un symbole pourtant hérité de la période fasciste. Et puis le décès d'une figure de l'humour littéraire britannique, l'écrivain David Lodge, mort le 1er janvier dernier à l'âge de 89 ans. En 2012, il revenait sur RFI sur son succès tardif, vous l'entendrez.
Ça passe de justesse pour Mike Johnson au Congrès américain.
Grâce au soutien actif de Donald Trump, le chef de la Chambre des représentants a été reconduit à son poste de speaker au deuxième tour du vote. David Thompson, le scénario d'un psychodrame de 22 jours pour l'élire l'année dernière en remplacement de Kevin McCarthy a donc été évité.
Oui, et c'est une victoire pour Donald Trump. Ce vote faisait figure de test pour le président élu qui avait apporté son soutien à Mike Johnson pour rester président de la Chambre des représentants. Car c'est sur cet élu de Louisiane, ultra-conservateur, fidèle évangélique, que Trump va s'appuyer pour appliquer son programme. Or, après un premier tour de vote à main levée dans l'hémicycle, Mike Johnson n'avait pas les votes suffisants. Alors Donald Trump a dû interrompre une partie de golf. Il a pris son téléphone et il a appelé les élus récalcitrants pour les convaincre de voter pour son candidat et de mettre un terme à leur fronde. Trois républicains avaient voté contre lui, cinq s'étaient abstenus. Or, à la Chambre des représentants, la majorité républicaine ne dispose que de cinq voix d'avance sur les démocrates. Il reprochait à Mike Johnson son accord budgétaire négocié avec les démocrates pour éviter un shutdown de l'administration. C'était avant Noël, trop de dépenses publiques à leurs yeux. Alors, sitôt réélu au perchoir, Johnson promet des coupes budgétaires drastiques malgré un retard à l'allumage. Ce premier test est donc réussi pour Donald Trump qui sort finalement renforcé de cette séquence en ayant réussi à discipliner sa courte et imprévisible majorité à la Chambre des représentants.
David Thompson, Donald Trump qui connaît sa peine dans le dossier Stormy Daniels le 10 janvier prochain. Annonce du tribunal de Manhattan qui a reconnu coupable le président élu dans ce dossier d'achat du silence de l'actrice X après une relation sexuelle. Le juge dit ne pas envisager de peine de prison alors que cette annonce prendra place 10 jours avant son investiture. Donald Trump dénonce une attaque politique illégitime et une mascarade. Les États-Unis où Joe Biden met son veto au rachat de US Steel, le président américain bloque la transaction initiée par le géant japonais Nippon Steel, un rachat qui menacerait la sécurité nationale selon l'actuel président américain. Une décision incompréhensible, réagit ce matin le ministre japonais de l'industrie Yoji Muto. Elle intervient alors que le secrétaire d'État américain est attendu au Japon la semaine prochaine dans le cadre de sa probable dernière tournée. Anthony Blinken, qui s'envolera d'abord pour la Corée du Sud, il viendra y réaffirmer l'alliance inébranlable entre les deux pays, selon un communiqué. Le diplomate américain atterrira dans un pays en crise où la police a échoué hier à arrêter l'ex-président Yoon Suk-yeol, toujours poursuivi pour rébellion après avoir déclaré la loi martiale. Le chef de l'État destitué a été protégé par la garde présidentielle qui lui est restée fidèle. Plus de précisions à 8h depuis Séoul avec Camille Ruiz.
8h et bientôt 34 minutes à Damas, la capitale syrienne qui a reçu hier la visite des ministres des Affaires étrangères français et allemands.
Et à l'issue d'une rencontre avec le nouvel homme fort du pays, Ahmad al-Shara, Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock ont plaidé pour une transition pacifique et inclusive. Ils assurent avoir reçu des gages concernant la participation des femmes et des minorités à la vie politique du pays. Une transition qui pourrait durer 4 ans, selon le chef des rebelles du HTS. Mais dans l'attente de l'organisation d'élections, la population syrienne peut déjà retrouver le goût de la liberté. À Homs, qualifiée souvent de la capitale de la révolution pour avoir accueilli les premières grandes manifestations anti-régime, les familles ont réinvesti les rues. Pour le quatrième vendredi de suite, les habitants, y compris des déplacés, se sont rassemblés sur les places publiques de la ville. Abla Junaidi, envoyé spécial de RFI, est allé à leur rencontre.
Les chants et musiques de la révolution syrienne volent au-dessus de la place de l'Horloge, le lieu symbole des manifestations contre Bachar al-Assad, réprimé dans le sang en 2011. Talal savoure un droit nouveau, dire ce qu'il a sur le cœur.
On le dira demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Dieu maudisse ton âme, Hafez. Dieu te maudisse pour avoir enfanté ce porc.
Le régime de fer de Hafez puis Bachar el-Assad a fait fuir des millions de Syriens de leur maison. Plusieurs sont de retour et profitent de la place de la mosquée Khaled ibn Walid. Venue d'Idlib, Salma ne cache pas son émotion.
Ce que je ressens, rentrer chez moi dans mon pays, c'est... On peut vivre loin, mais le pays reste en soi. Louange à Dieu. J'espère qu'il ramènera tous les absents chez eux.
Heda, venue juste pour la journée, sait qu'elle devra quitter Homs ce soir.
C'est impossible pour moi de rester. Je n'ai pas les moyens, pas de logement. Peut-être bientôt, je l'espère. Mais croyez-moi, une tente à Homs vaut mieux que l'exil. Il n'y a que 2 heures de route avec Idlib, mais on se sentait exilés dans notre propre pays.
Le retour des déplacés pour une ville largement détruite, c'est l'un des nombreux défis des nouvelles autorités. Abla Junaidi, Homs, RFI.
Et à noter que le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shibani, est attendu la semaine prochaine au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Jordanie. La violence des colons israéliens plus importante que jamais, selon l'ONU. Dans un rapport, les Nations Unies annoncent avoir recensé 1400 incidents contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Précision de notre correspondant Michel Paul.
Cela représente près de 4 incidents par jour qui ont entraîné la mort et des blessures de Palestiniens, des dommages à leurs biens ou les deux à la fois. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires documente ces incidents depuis 20 ans. Selon le bilan présenté par l'organisation, des colons auraient tué au moins 7 Palestiniens au cours du premier semestre de l'année écoulée, mais depuis le début de la guerre, ce sont au moins 800 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie et environ 6500 ont été blessés, toujours selon ce rapport. Plusieurs milliers d'habitants du territoire palestinien ont été en outre contraints d'abandonner leur domicile en raison d'attaques ou de saisies de terres. Pas de réaction israélienne à ce rapport. Israël reproche en général aux agences de l'ONU d'être obnubilées par le conflit israélo-palestinien. Et en octobre dernier, le Parlement israélien a adopté une loi qui contraint les administrations à couper tout contact avec l'UNRWA, l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et dans ce contexte, le Croissant-Rouge palestinien annonce que 7 personnes ont été blessées à Naplouse ces dernières heures, dont 2 gravement, conséquence d'une opération israélienne en cours dans cette ville de Cisjordanie occupée. Joint par l'AFP, l'armée israélienne dit avoir ouvert une enquête.
Au Mali, Pierre, cela fait tout juste une semaine qu'Ibrahim Nabi Togola a disparu.
Le président du parti d'opposition Nouvelle Vision pour le Mali a été enlevé le 28 décembre dernier à Bamako par des hommes armés en civil. Ses proches le considèrent aux mains des services de la sécurité d'État et ne cachent pas leur inquiétude. Les détails avec David Baché.
Ils ont continué de chercher, en vain, à la brigade d'investigation judiciaire, dans les commissariats proches du lieu de son enlèvement. Ibrahim Nabi Togola demeure introuvable. Il y a une semaine, les hommes armés, sans uniforme ni mandat, qu'il avait embarqué de force dans un 4x4 noir aux vitres teintées, avaient assuré être des gendarmes. Mais Ibrahim Nabi Togola n'a été placé en garde à vue nulle part, parce que la méthode est devenue tristement habituel, ses proches tiennent pour acquis qu'Ibrahim Nabi Togola est détenu dans une prison secrète de la sécurité d'État. Président du parti NVPM, membre de la coalition Djigiyakura qui prône le retour à l'ordre constitutionnel, il avait pour projet de lancer un nouveau mouvement d'opposition. Un avocat vient d'être engagé pour entamer des démarches officielles, même si, à ce stade, le cas d'Ibrahim Nabi Togola échappe à tout cadre judiciaire. Au moment où les autorités de transition prônent le dialogue et l'apaisement, s'indigne l'un de ses camarades politiques, on ne comprend pas que des chefs politiques soient maltraités, enlevés illégalement. Les proches d'Ibrahim Nabi Togola commencent l'année 2025 la peur au ventre pour sa sécurité, ses conditions de détention et sa santé. À destination de ses geôliers, son entourage indique qu'Ibrahim Nabi Togola souffre de diabète et d'hypertension.
David Baché. Au Monténégro, les détenteurs d'armes illégales ont un an pour les rendre aux autorités, annonce du Premier ministre Miloško Spasić, qui juge excessive et horrible la disponibilité des armes à feu dans le pays, une conséquence de la fusillade qui a fait 12 morts le 1er janvier dernier dans la ville de Cetinje. Le tireur de 42 ans s'est suicidé alors qu'il était cerné par la police en 2022. Un homme avait déjà tué 10 habitants dans la même ville avant d'être abattu. En France, le chemin pour sortir de l'instabilité politique est plus clair qu'on ne le croit. droit. Ce sont les mots de François Bayrou hier à l'occasion du premier conseil des ministres de son gouvernement. À cette occasion, le président Emmanuel Macron a appelé le gouvernement à faire preuve d'unité et d'audace, notamment pour parvenir à un accord sur un nouveau budget. Initialement prévu hier, la présentation du projet de loi d'urgence pour l'île de Mayotte a été repoussée à la semaine prochaine.
La flamme tricolore est et restera le symbole du parti Fratelli d'Italia.
C'est en substance ce qu'a déclaré hier la présidente du conseil italien et fondatrice de la formation d'extrême droite. Dans un entretien accordé au quotidien centriste Il Corriere della Sera, Giorgia Meloni assure ne pas envisager de changer de logo, pourtant hérité de la période fasciste. RFI Rome, Anne Lenir.
Je pense que retirer la flamme du symbole n'a jamais été à l'ordre du jour. Voilà la réponse de Giorgia Meloni à une question qui fait pourtant débat depuis des années. En 2022, la leader de Fratelli d'Italia avait adressé une vidéo à la presse étrangère dans laquelle elle affirmait que la droite italienne a relégué le fascisme dans l'histoire et condamné la privation de démocratie et les lois raciales instaurées par Mussolini en 1938. Mais le fait est que la flamme tricolore est une icône héritée du mouvement social italien, le MSI, créé en 1946 par d'anciens représentants du régime fasciste et qui fut le principal parti d'extrême droite pendant près de 50 ans. Or, la première ministre a commencé à militer à l'âge de 15 ans dans le mouvement des jeunes du MSI, Il Fronte della Gioventù, dissous en 1996 et remplacé en 2014 par Gioventù Nazionale, l'organisation des jeunes de Fratelli d'Italia. Garder la flamme équivaut donc à ne pas renier des racines. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et puis le Royaume-Uni a perdu le 1er janvier dernier un monument de son humour, l'écrivain britannique David Lodge, décédé à l'âge de 89 ans. Il était notamment l'auteur de Changement de décor ou d'Un tout petit monde. Il avait été reçu par Catherine Fruchon-Toussaint en 2012 sur RFI lors de la sortie de son livre Un homme de tempérament, universitaire puis écrivain, drôle et costaud. Qu'il avait connu le succès sur le tard. Écoutez-le.
Sigmund Freud a dit que les romanciers écrivent pour être riches, célèbres et plaire aux femmes.
For money and fame and the love of women.
Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous écrivez aussi David Lodge pour être riche, célèbre et attirer les femmes?
Well, my career has been very slowly growing.
Ma carrière a démarré très doucement et mes premiers livres n'ont pas eu beaucoup d'écho. Et je ne pensais jamais avoir la notoriété que j'ai aujourd'hui ni le succès commercial. J'avais déjà plus de 40 ans, presque 50 quand j'ai commencé à être un peu connu comme écrivain. Je ne regrette pas ma lente ascension parce que si vous êtes célèbre très jeune, c'est difficile de maintenir le même niveau de réussite et de reconnaissance tout au long de votre vie.
L'écrivain britannique David Lodge, c'est la fin de ce journal. La suite des programmes sur RFI, c'est avec vous Gaëtan Plenet.
Un journal signé Pierre Boudias, on vous retrouve à 9h, heure de Paris. À suivre dans les 20 prochaines minutes, le grand invité de la rédaction, le père Pedro, fondateur de l'œuvre humanitaire à Kamassou, à Madagascar, grande figure de la solidarité. Il nous racontera son combat de tous les jours contre la misère. Mais d'abord le sport avec Christophe Diremjian et du football. Le Real Madrid de retour en tête de Liga, Christophe, après sa victoire à l'arraché à Valence en match retard de la 12e journée.
Renversant Merengue, vainqueur 2-1 après avoir été mené 1-0 jusqu'à la 85e minute et en étant réduit à 10 par l'expulsion de Vinicius à la 79e. Luka Modric et Jude Bellingham se sont chargés de retourner la situation à l'avantage des madrilènes qui reprennent le pouvoir avec deux longueurs d'avance sur l'Atlético.
En France, en attendant le trophée des champions demain, la 16e journée de Ligue 1 a démarré avec la victoire de Nice à domicile.
Et les Aiglons qui l'emportent 3-2 sur Rennes et se hissent provisoirement à la 4e place. Trois nouveaux matchs à suivre aujourd'hui, du dernier au premier par ordre chronologique inverse. Lyon-Montpellier, 20h temps universel. Lille-Nantes, 18h TU. Et dès 16h TU, Reims, 10e qui se déplace à Saint-Etienne, barragiste des Rémois, protégé devant les buts par Yevan Diouf, futur gardien également. D'une tanière, le natif de Montreuil, en région parisienne, a en effet choisi de devenir un international sénégalais. Son père y est originaire. Décision prise après discussion avec l'actuel sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiot.
Je l'avais rencontré avant la trêve de novembre. Et on avait échangé sur pas mal de sujets, notamment la sélection. Et moi, j'avais dit que voilà, j'étais prêt à venir avec la sélection, s'il se sentait nous sélectionner, que je venais sans, enfin, sur la pointe des pieds, quoi, comme n'importe quel joueur, et j'étais prêt à occuper n'importe quel poste pour la sélection. C'est un choix du cœur qui me définit aussi. Après, moi, j'ai toujours dit que forcément, je suis métis, j'ai les deux. Je suis autant français que sénégalais. J'ai souvent eu l'occasion, de par mon papa, de pouvoir retourner au Sénégal. Donc, j'ai des liens assez forts avec ce pays, et c'est pour ça que je mets les deux sur, au même niveau.
Yevan Diouf, qui devrait être officiellement convoqué pour la première fois en mars à l'occasion des éliminatoires du Mondial 2026. Duel 100% milanais en finale de la Supercoupe d'Italie lundi à Riyad. Le Milan AC rejoint l'Inter après sa victoire 2-1 sur la Juventus Turin lors de la seconde demi-finale.
Et puis le Paris Basketball, plus que jamais à la peine en Euroleague.
Et oui, fini le temps où le club de la capitale surprenait le continent pour sa première saison dans cette compétition en allant même jusqu'à s'emparer de la tête du classement. Là, il n'y est plus vraiment. Quatrième défaite d'affilée à l'occasion de la 19e journée disputée à Bercy, 90 à 79 face au FC Barcelone. Barcelone de l'expérimenté pivot sénégalais Youssouf Afal. 4 points et 7 rebonds en 12 minutes. Le géant de 2m21 satisfait d'avoir lavé l'affront du match aller où Paris avait gagné.
On avait à cœur de venir prendre notre revanche. Quand Paris nous avait battu à domicile, et on avait vraiment à cœur de bien faire les choses ce soir.
Comment vous la vivez cette première saison au FC Barcelone?
Avec des hauts et des bas. C'est un grand club, il y a beaucoup de grands noms, il faut juste s'adapter par rapport au coach, ce qu'il veut faire. J'essaie juste de m'adapter à, par rapport à lui. Ouais, le basket en Espagne est différent du basket de France, donc j'essaie juste de m'adapter. Après maintenant, j'ai beaucoup d'expérience, c'est ma sixième année en Euroleague. Je connais presque tous les joueurs, j'ai déjà joué à Baskonia, je connais un peu le jeu espagnol, donc j'essaie juste de m'adapter et avancer.
Youssouf Afal avec Victor Misistrano. Conséquence de sa défaite, Paris glisse à la quatrième place, le Barça est dixième.
Le journal des sports signé Christophe Diremzian, 16h16 à Paris. 7h16 à Paris et chaque semaine sur RFI, la chronique Menace sur l'information vous invite à découvrir les défis auxquels sont confrontés les journalistes dans le monde. Ce matin, on s'arrête au Mali où la chaîne privée Joliba TV a cessé d'émettre le 26 novembre dernier une suspension ordonnée par la haute autorité malienne de la communication à la demande du Burkina Faso voisin. En cause, la diffusion d'un débat au cours duquel la véracité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina avait été mis en doute. Les journalistes maliens restent mobilisés pour obtenir le rétablissement de Joliba TV. David Bachet, ce dossier très politique constitue un palier supplémentaire dans la restriction de la liberté d'expression au Mali et plus généralement dans les trois pays de l'Alliance des États du Sahel.
Au cours d'une émission de débat sur Joliba TV, Issa Kaounjim, figure politico-médiatique bien connue au Mali, estime que les images présentées par la télévision d'État burkinabé RTB comme une tentative de coup d'État déjouée ont l'allure d'une mise en scène destinée à détourner l'attention des vraies questions. Incarcéré le 13 novembre, Issa Kaounjim a été condamné cette semaine à 2 ans de prison, dont un ferme. De son côté, la chaîne Joliba TV est suspendue depuis près de 6 semaines. Une sanction que Noël Yao, président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, juge illégitime.
C'est un coup d'arrêt à la liberté de la presse. Des mécanismes permettent de rétablir une information lorsqu'on considère qu'un organe de presse s'est fourvoyé. Le droit de réponse en est un. On peut aussi faire une interview, exiger la diffusion et rétablir les faits que l'on estime erronés. Mais suspendre, interdire une télévision, cela ne va pas dans le bon sens démocratique.
Face à cette atteinte au pluralisme des médias et à la liberté d'expression, la Maison de la Presse, qui regroupe les associations de journalistes du Mali, menace d'appeler tous les médias du pays à rediffuser l'émission incriminée. Des discussions sont engagées avec la haute autorité malienne de la communication qui accepte mi-décembre de rendre sa licence à Joliba TV, mais maintient une suspension de 6 mois. Un recul insuffisant pour les salariés de Joliba TV comme pour tous les journalistes maliens qui exigent le rétablissement pur et simple de la chaîne. Cette sanction a été prise au Mali à la demande du Burkina Faso qui, par réciprocité, a infligé fin novembre au quotidien L'Observateur Palga un avertissement pour un article moquant l'autopromotion des militaires au pouvoir au Mali, passés de colonels à généraux. Noël Yao, de l'UJPLA.
L'AES commence à ressembler à une internationale de la répression de la presse. C'est l'effet escompté par les putschistes, mettre la peur dans le camp des journalistes. afin qu'il y ait une sorte de pensée unique. Les militaires putschistes au pouvoir au Mali, au Burkina, au Niger ne veulent pas d'une voix discordante. Ils veulent un unanimisme factice. C'est un recul inadmissible.
En dépit de l'impatience de certains journalistes et de l'indignation générale de la profession, la Maison de la presse du Mali privilégie toujours le dialogue avec le régulateur malien. Dans un dossier éminemment politique, c'est cette approche apaisée et discrète qui est pour le moment jugée la plus stratégique. Le passage à une mobilisation plus forte n'est évidemment pas exclu.
Et la Haute Autorité de la Communication du Mali n'a pas souhaité répondre à RFI, elle-même coupée au Mali depuis bientôt 3 ans maintenant. C'était la chronique Menace sur l'information, signée David Bachet. À 7h20 à Paris, 2h de plus à Antananarivo, on passe au grand invité de la rédaction sur RFI. Arnaud Pontus reçoit le père Pedro, fondateur de l'œuvre humanitaire à Kamassou, à Madagascar.
Bonjour Père Pedro.
Bonjour.
Et bienvenue sur RFI, merci d'être là ce matin. Dans quelques mois, ça fera 50 ans que vous vivez en permanence à Madagascar. Comment vous, le prêtre argentin, vous êtes-vous retrouvé curé d'une paroisse sur la Grande Île en 1975?
Je fais partie de la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul, qui était un pionnier de la dignité des pauvres ici en France au XVIIe siècle. Et c'est Saint-Vincent-de-Paul qui a commencé, qui a envoyé les premiers missionnaires à l'île de Madagascar en 1648, à Fort Dauphin. Alors, notre supérieur général, en 1968, il a fait une lettre en disant « on a besoin de missionnaires pour Madagascar ». J'ai lu cette lettre-là, j'étais en Argentine. Eh bien, j'ai dit « j'y vais ».
Et vous êtes resté depuis tout ce temps. Qu'est-ce qui vous a fait rester? Vous auriez pu repartir, Père Pedro.
Oui, mais ce qui m'a fait rester, c'est ce peuple tellement accueillant. La joie de vivre qui a le peuple malaga, c'est vraiment contagiant. J'ai dit, quand je serai prêtre, je vais revenir pour servir ce peuple-là.
Et vous revenez donc prêtre. Et puis quelques années plus tard, 1989, c'est une année capitale pour vous. Vous découvrez sur les hauteurs de la capitale, Antananarivo, une décharge à ciel ouvert. Et là, c'est une décharge où vivent des familles. C'est un choc, là.
Oui, là, j'ai subi un électrochoc. Là, j'ai vu des centaines, voire un millier d'enfants qui se disputaient les ordures avec des animaux qui étaient là. Je suis resté choqué, électrochoc. Je ne pouvais plus parler. Ce soir-là, je ne pouvais pas dormir. Et vers minuit, je me mets à genoux sur mon lit, j'ai levé la main, j'ai dit « Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants ». Et le lendemain, je suis allé à la décharge. Et ils m'ont dit « Toi, les Blancs, toi, les Vaza, les étrangers, qu'est-ce que tu veux ? Parlez avec vous ». Et alors voilà. Et on a que j'ai dit si vous aimez vos enfants, je suis prêtre. Si vous aimez vos enfants, je suis prêt à vous donner un coup de main ». Et ces décharges-là, aujourd'hui, nous l'avons changé en oasis d'espérance. Mais je ne pensais pas à l'époque que ça va durer si longtemps.
Que ça durerait aussi longtemps, voilà. Parce que vous découvrez donc les plus pauvres des pauvres, on peut le dire comme ça, et vous fondez à Kamassou, qui signifie en malgache, les bons amis.
Les bons amis, l'ami fiable. Et eh bien, je me suis entouré déjà de tous ces jeunes que je connaissais dans le sud-est, qui étaient étudiants à l'université à Antananarivo. J'ai dit, vous avez, je les ai convoqués, j'ai dit, vous étiez autrefois, vous avez des belles idées, comment il faut s'engager, être responsable de son pays, comment il faut secourir les compatriotes. J'ai dit, voilà, il y a la décharge, voulez-vous me suivre? Ils m'ont dit, mon père, on y va.
Et vous avez construit, avec ces équipes, avec ces bonnes volontés, des écoles, des lieux de travail, des dispensaires.
Il fallait faire tout. On a commencé par les dispensaires. Les dispensaires parce que les gens étaient très malades, très malades. Alors, soigner les gens d'abord. Ensuite, les enfants avaient faim. Alors, on a commencé à donner un goûter aux enfants. Un goûter, ensuite, on a commencé à chanter. À Madagascar, on chante. Et quand c'est un peuple qui chante, et quand on chante, il y a l'espoir, il y a l'espoir. Et ensuite, on a commencé l'école. Et bon, nous avons commencé une école sous un arbre, assis par terre. Aujourd'hui, que je vous parle maintenant, il y a 20 843 élèves à Kamassou, dès la crèche maternelle, l'école primaire, le collège, lycée et même une université. Même, je n'ai jamais pensé qu'à partir d'une décharge, on aurait un jour créé une université.
En octobre dernier, vous avez célébré les 35 ans de ce mouvement. Est-ce que vous savez combien de personnes vous avez aidé depuis tout ce temps?
C'est certainement plus de 500 000, voire 1 million de personnes qui ont passé en 35 ans à Kamassou. Et eh bien, 40 000 sont restés avec nous, 40 000 personnes. Mais Lou, là, je n'ai jamais imaginé que ça va devenir une ville. Sinon, j'aurais pris, à l'époque, pris le premier avion, je m'échappe.
Ah bon, vous seriez parti?
Ah, je serais parti, j'ai dit, avec quel argent on va aider tout ce peuple-là? Et voilà que Dieu vous donne la force de chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. L'Afrique et Madagascar a une jeunesse extraordinaire. C'est le réservoir de l'humanité. Parce que, surtout Madagascar, c'est un des pays le plus jeune du monde.
Et le plus pauvre aussi. 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec à peu près 2 dollars par jour.
Oui, ben, quelquefois un peu moins. Mais on ne peut pas vivre avec 2 dollars par jour à Madagascar, ni en Afrique, on ne peut pas. Mais quel courage, quelle persévérance, quelle passion, quel amour qu'ils ont pour leurs enfants, pour qu'ils travaillent dans ces conditions-là. Moi, j'ai travaillé avec eux. Je ne suis patron de personne. Je suis le premier ouvrier d'Akamassou.
Mais lutter contre la pauvreté, Père Pedro, c'est un combat sans fin.
Sans fin. Et bon,
mais où trouvez-vous l'énergie?
Mais je suis venu à Madagascar à cause d'un homme, d'un homme qui m'a séduit quand j'étais jeune, qui était vrai, qui a donné sa vie pour ses amis et qui a aimé les pauvres, et qui s'appelle Jésus. C'est Jésus, un grand révolutionnaire pour moi. Mais on a tellement édulcoré dans l'histoire que Jésus est devenu tellement doux. Jésus était un homme qui était engagé aux pauvres, qui disait à tous les gens de son temps, quand il est même aux prêtres du temple, hypocrite, pourquoi vous faites souffrir le peuple et vous vivez comme des rois? Alors voilà, ces hommes-là, c'est lui qui me donne la force.
Père Pedro, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025?
Mais que puisse la pauvreté puisse diminuer à Madagascar, en Afrique surtout, que la paix puisse s'installer dans le monde, que la guerre en Ukraine finisse, que la guerre en Israël, à Gaza, au Liban, et aussi au Soudan, et dans le Kivu, en Congo. Pourquoi la guerre? Si nous sommes vraiment des hommes du troisième millénaire, tous les élus, tous les présidents des nations, les Nations Unies devraient travailler pour la paix et réduire les inégalités. Il y a 1 milliard de personnes qui ont faim. Manger à Madagascar, en Afrique, c'est un événement. Pourtant, il y a de la nourriture. La nourriture existe, mais il faut la partager. On ne peut pas spéculer sur les prix de la nourriture. La nourriture devrait être gratuite pour les enfants, comme l'éducation, comme la santé, comme boire de l'eau propre, comme avoir un logement digne. C'est un droit, ce n'est jamais un privilège. Voilà.
On entend encore beaucoup de révolte dans votre voix.
Mais bien sûr, je suis en colère. Pourquoi ceux qui sont les élus sont si lents? Pourquoi cette lenteur pour lutter contre la pauvreté? Pourquoi cette lenteur? Pourquoi tant de procédures? Qu'est-ce que c'est plus important? Faire une école, un hôpital, une maternité ou la procédure? C'est faire l'école. Et bon, et on vous met, combien de fois ils m'ont promis des aides, qui m'ont fait attendre 1 an, 2 ans? Eh bien, je dis, c'est fini. Je ne vais plus demander à aucune grande fondation, institution de l'argent. Je vais chez les gens simples qui ont du cœur et qui réagissent tout de suite. Et quand je viens en France, en Europe, je ne rentre jamais les mains vides. Si Dieu existe, il y a une place pour chaque pauvre de la terre.
Merci Père Pedro d'être venu ce matin.
Merci à vous et à tous les auditeurs des RFI.
À bientôt.
Merci.
Le Père Pedro, fondateur de l'œuvre humanitaire à Kamassou, à Madagascar, il était interrogé par Arnaud Pontus. Un entretien à retrouver sur notre site RFI.fr. Le journal dans une minute.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Connaissez-vous l'agriculture climato-intelligente? À Madagascar, des communautés paysannes ont adopté des pratiques agricoles durables. L'objectif, améliorer leur qualité de vie, mais surtout préserver la biodiversité. Notre invité nous apportera des éléments de réponse.
Un jour au village avec Penaï Traoré, tout à l'heure à 13h10 TU sur RFI.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
Destination le Katanga, province riche de la République démocratique du Congo et berceau de la France-Afrique. Composée par des anciens d'Algérie, officieusement aidés par la France, une poignée d'hommes soutiennent et arment la sécession de la province en 1961 jusqu'à déclencher une guerre oubliée entre la France et l'ONU.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Tous les dimanches à 8h10 TU sur RFI.